Un instant tango avec l'acrobate Juan Ignacio Tula.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
La spirale est son monde. Danseur de tango, acrobate en mouvement, circassien spécialisé dans la roussire. Impossible de suivre physiquement Juan Ignacio Tula, mais impossible aussi de décrocher les yeux de son cerceau métallique, devenu son centre de gravité, son centre terrestre. Son sol majeur à lui commence en Argentine, c'est vrai, mais il se poursuit dans la mystique des derviches tourneurs. Hola, ¿qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal? Bonjour.
Installé en France depuis 2012 et programmé avec sa compagnie 7 bis au théâtre du Rond-Point, c'est à Paris, vous le savez, avec les solis Lantano et Instante, Ignacio Tula nous arrive avec sa tempête émotionnelle et c'est une tempête qui commence souvent par un murmure ondin. Vous êtes bien sur RFI, mais vous êtes aussi chez Juan Ignacio Tula avec cette chanson d'Atahualpa Yupanqui, chantée merveilleusement par Mercedes Sosa. Pourquoi cette chanson?
Ouais. Bon, ces chansons me touchent particulièrement parce que Atahualpa Yupanqui, c'est un artiste argentin qui a fait tout un travail, beaucoup de terrain en époque, de partir à recueillir des histoires des gens qui travaillent la terre. Et du coup, avec ces histoires-là, ils construisaient une musique très habitée. Du coup, son travail, c'est assez exceptionnel. Et surtout, ce morceau-là, c'est interprété par Mercedes Sosa, qui est une des voix les plus reconnues de l'Argentine.
C'est une icône.
Une icône, ouais. Et il y a ce rapport aussi aux instruments de folklore argentin, ouais, le cuivre, les tambours, le folklore, qui ça me ramène un peu aussi à la terre, à moi, à mon pays. Voilà.
Du coteau, je descends. Chemin et pierre, j'emporte mêlée en mon âme ma vie. C'est ce que dit le début de cette chanson. Ça fait plus de 10 ans que vous vivez en terre francophone. Juan, est-ce qu'il y a des mots aujourd'hui dans votre quotidien qui vous viennent encore en espagnol?
Oui, tout le temps. En fait, il y a tout le temps, ouais. Parfois, ça mélange aussi avec l'italien. Moi, je suis une espèce de cocktail des mots latins dans ma tête, je crois. Ouais.
Le che, c'est quoi?
Le che, c'est un mot qui, ça veut dire, c'est pour appeler quelqu'un en fait, juste pour dire, ici ça serait hey, mais ça marche pas de la même façon, parce que là, en espagnol, le che, tu peux le mettre à n'importe quel moment, il s'annule, c'est question de vous voyez, tutoyer, quand tu dis che, bah, tout le monde comprend, les personnes peuvent se le prendre mal.
Onda?
Onda, c'est un mot que j'aime bien. Souvent, on dit buena onda, non? Buena onda, ça veut dire une belle énergie, quelqu'un qui a une très belle énergie. Ou tu peux dire que onda pour savoir comment s'était passée la journée, ou que onda la soirée d'hier. Et du coup, onda, en fait, c'est un mot qui, une fois qu'on l'a dans le vocabulaire espagnol, en tout cas en Argentine, bah, ça t'est fait raccourci pour tout, en fait. Donc, ouais. Ça, c'est simple, ça, et c'est ça, beau.
Et ça, ça sort dans votre quotidien, même à Paname. Et si ouais. On rajoutait, Juan, les sons de votre enfance,
ouais.
Ça serait quoi?
Alors, le son de mon enfance. Il y a un son qu'il y avait dans le quartier beaucoup, qui c'est un son de vendeur, qui dit un truc de type Compro la era, compro esto, qui on comprend rien. Ça, c'est une espèce de son de quelqu'un qui passait acheter des choses à la maison.
C'est très ville du Sud. Hein.
Ouais,
j'ai
ouais.
Entendu ce genre de voix du côté d'Alger. Vous voyez.
Et voilà, c'est un peu ça même. Hein, pour ça, quand je passe par les marchés en Italie, les marchés, moi, j'aime bien écouter ça, que les gens vendent des choses. Et on ne comprend pas trop, en fait, mais on est perdu dans cette marée des voix et des accents. Il y a un autre qui, par contre, lui, il a disparu. C'est lui qui aiguissait les couteaux. Lui, il avait une espèce de flûte qui faisait touloulouloulou. Et du coup, tu savais qu'il passait par là avec son vélo, il y avait une espèce de pierre, il aiguissait les couteaux. Lui, il est disparu, mais c'est lui qui achète tout le reste des choses que tu as en plus à la maison. Bah, lui, il est toujours là. Ouais.
De Buenos Aires, vous ouais. Y êtes né en 88, Juan. Alors je me demandais comme ça, à part l'Albi Céleste, c'est-à-dire l'équipe de foot argentine, dans quel univers vous évoluez? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 14, 15,
alors,
16 ans?
Moi j'ai fait plusieurs sports, j'étais pas très foot. Je jouais aussi, bien sûr. En fait, tout le monde joue au foot. T'es obligé de jouer au foot. Voilà,
maman.
Tout le monde joue au foot. Mais c'est pas un choix, en fait. Tu es là et t'as une balle dans le pied, c'est sûr. Mais moi, j'ai fait plutôt de la natation, de rugby, plusieurs sports différents. Ouais.
Des parents d'origine calabraise, donc italienne côté maman, côté papa espagnol. Mais vous précisez. Colon espagnol.
Alors, ouais, oui. En fait, j'ai une partie de la famille, normalement, qui vient de l'Espagne, mais mon père, c'est quand même quelqu'un qui invente beaucoup. Il exagère, il aime bien la fiction, on va dire. Mmh. Et du coup, quand j'étais petit, il me disait plein d'histoires. En fait, une fois, il y avait une épée chez moi, et lui, il avait dit que mon arrière-grand-père était dans la guerre de Paraguay. Et après, je me suis informé, et en fait, pas du tout, en fait. Donc, en fait, moi, pour ça, j'ai tout un tas d'histoires de la partie de mon père sourd, des parents colons, mais sincèrement...
Ça vous arrangerait pas.
Bah, oui, ça me plaît pas trop l'idée, mais bon, après, ça trouve que c'est comme ça. Moi, de toute façon, les ancêtres, on les choisisse pas, quoi.
À partir des années 70, l'Argentine rentre dans une période de sale guerre. Des guérillas de gauche apparaissent en réponse à cette terreur d'État, dont le groupe Montoneros, qui soutient, je cite, que les démocraties sont une mascarade qui masque des gouvernements fascistes et retarde la lutte des classes. Sous ma voix, une archive des funérailles de Fernando Luis Abal Medina, qui est le fondateur des Montoneros, assassiné en 1970. Une archive pour se rapprocher de votre mère, Juan, puisque votre mère s'est engagée dans ce groupe.
Oui, ma mère, elle fait ses parties militantes de ce parti-là. C'était une période quand même un peu dure, une époque très obscure de l'Argentine.
Mais qu'est-ce que vous savez de ses actions?
Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, je parlais avec elle et je lui dis que j'avais commenté ça. Et elle m'a dit, Juan, quand même, fais attention parce que les services sont toujours là. Du coup, elle est assez parano encore avec ce type de choses. Mais voilà, juste pour dire, à cette époque-là, elle passait message, en fait. C'était une façon de communiquer. En fait, du coup, il avait la mission de recevoir un message, se retrouver quelque part. Il y aura quelqu'un habillé de telle ou telle façon qui allait recevoir tel journal. Elle bien habillée, du coup, il a fait son transaction de journal où il y avait un message à l'intérieur où ça s'est préparé des actions. Mais oui, elle était assez engagée à cette période-là jusqu'à qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs copains disparus.
30 000 disparus.
Il y a eu 30 000 disparus entre des copains et ma mère. Et du coup, après ça, elle a un peu mis un pas à côté de cette militance-là, mais plutôt pour la peur, quoi.
La devise d'ailleurs de Montoneros, c'était « libre ou mort, mais jamais esclave ». Ça donne le ton. Est-ce que, même à des années de distance pour vous, ce climat vous a marqué ?
Alors oui, ça c'est quelque chose, je pense que c'est un bout d'histoire qui marque tous les Argentins. Chaque personne disparue quand même, on le porte en nous et on le porte dans notre mémoire. Il y a tout un travail de mémoire qui s'est fait pour pas oublier ça et pour pas revenir à cette époque de terreur. Oui.
Alors vous, vous avez eu la chance de naître en démocratie, mais votre génération, elle est désignée comme, je cite, les enfants de la crise.
Oui, c'est vrai que depuis que je suis adolescent, on va dire petit, enfant, j'ai toujours vécu cette crise argentine, on va dire. Moi, je me souviens que ma mère, elle me disait toujours, on est en économie de guerre. Voilà, et du coup, j'étais, ok, économie de guerre, ça veut dire qu'il fallait faire attention à les dépenses, quoi. Du coup, oui, je suis grandi dans ce cadre-là où on voyait plein de gens manger de la poubelle dans la rue, mais beaucoup, beaucoup de gens dans la rue. Tout type de cadre social, c'est une époque où même moyen haut, moyen bas, en fait, tout le monde pouvait tomber d'un jour à l'autre dans une situation de pauvreté assez impressionnante. C'est une époque, pour dire une anecdote, en tant qu'artiste, pour dire...
Car vous étiez déjà artiste.
Alors moi, j'étais pas artiste, mais j'ai toujours eu cette touche vers l'artistique. Et du coup, moi, je faisais la musique, je jouais la guitare. Et du coup, je voulais acheter une guitare. Et c'était l'époque où, d'un coup, il y a eu une inflation assez grande. Et du coup, la guitare que je voulais acheter, et ça coûtait 3 fois plus la valeur de ceux que j'avais économisé en pesos. Donc, je suis un enfant de la crise et je pense que tous les gens un peu de ma génération sont des enfants de la crise. Ouais, ils le sont encore, je crois, en Argentine.
Vous avez été élevé un peu à la spartiate, hein, entre un climat de terreur pour la génération de vos parents et la crise sociale pour votre génération. Je ne sais pas si ça a un lien, mais vous faites vos valises, Juan Ignacio Tula, direction l'Italie en 2010, puis la France en 2012. Pourquoi la France ?
Oui, alors moi, la France... en fait, j'avais vu un spectacle de l'école de cirque des Chalons en Champagne, le CNAC, en Argentine.
Ah oui.
Et j'avais un peu rêvé de faire cette école, de partir faire cette école. Donc, le premier rêve, c'était la France, mais je ne sais pas, je tentais une autre école en Italie. Et j'étais pris à cette école-là. Du coup, je continuais ma formation parce que moi, j'avais déjà commencé en Argentine à faire du cirque. Et du coup, comme ça, je débarque en Italie en 2010. Et ensuite, à Chalons, à l'école que j'ai fait après, parce que j'ai auditionné au Centre National des Arts du Cirque. Et je me suis formé là ensuite. Donc finalement, cette rêve d'aller en France pour faire des études, cette rêve-là, ça a été accompli, quoi.
Donc vous arrivez dans un pays et dans une langue qu'il faut maîtriser. C'est tout un monde à reconstruire.
Oui, oui, oui.
Alors je rappelle qu'en Sol Major a été créé au moment du ministère de l'Identité nationale et de l'Immigration. Et puis depuis, on a connu le chapitre de la déchéance de la nationalité. Ça, c'était avec le discours de Grenoble de Sarkozy. Et puis sous Hollande, après les attentats de 2015. Et aujourd'hui, il est question de la loi sur l'immigration. Comment vous la vivez, vous, Juan, cette question d'identité dans notre pays ?
Alors moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que déjà en tant qu'Argentin, quand même, j'ai l'impression qu'il y a un amour un peu.
Vous êtes épargné.
Voilà. Ouais. Non, mais j'ai fait une parenthèse par rapport au morceau de Mercedes Sosa, mais même Atahualpa Yupanqui, c'est des artistes qui, au moment de l'exil, et ils sont atterris en France, en fait, ce pays les a accueillis. Et moi, j'ai l'impression qu'envers moi, je me sens bien ici, je me sens accepté, mais je sais que quand même, parfois, c'est pas tout à fait facile.
Oui, parfois, quand on n'a pas la bonne religion, la bonne couleur.
Ouais, le bon nom, quoi. Moi, je m'appelle Juan, mais si tu t'appelles Mohamed, peut-être c'est pas pareil. C'est pas bien, quoi.
À chaque voyage en Argentine, la question de savoir si vous allez rentrer définitivement chez vous ou si vous rendez visite, juste comme ça, à chaque fois, cette question, elle se pose.
Oui, je la travaille. Parce que c'est pas facile, un peu parfois, pas comprendre d'où tu viens. t'as des origines italiennes, mais tu parles français, mais en même temps, en fait, t'es argentin. Donc, c'est un peu complexe. Et quand je suis venu en Argentine, j'ai l'impression de dire, je rentre en Argentine. Mais quand je rentre en Argentine, je me rends compte que je rentre visite, en fait.
Pourquoi ?
Parce qu'aujourd'hui, ma vie s'installe en France. Moi, j'ai déposé mes valises ici, j'ai mes amitiés ici. J'ai même, en fait, des amis qui sont aujourd'hui pour moi la famille, en fait, la famille que j'ai choisie. Et du coup, forcément, mon chez-moi aujourd'hui, c'est en France.
Y hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre guapos y malandras, mis etauras patalanas. Me he jugado sin dar pilla, en budines y carpetas, me enseñaron a servir muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho, y entre tragos se echaba lo que nunca se pensó. Y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui sujeta de pinta y pulería. Y sé lo que es jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo ese chamullo pulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro del pecho de mina seguidora y de hombres bien derechos tallando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la ayuda porque tengo mi rebusque y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se cuerte con la mala ni tampoco es batidor.
D'accord, ça sent bon RFI. D'accord, vous savez danser tango. Juan Ignacio Tula, vous faites même le gestuel, enfin, c'est un vrai spectacle. Vous savez danser ça?
Oui, je danse tango, ouais, je suis danseur de tango. Et cet orchestre-là, ce morceau, j'aime beaucoup, d'Arienzo, Juan D'Arienzo. Que c'est marrant parce que Juan D'Arienzo, ça serait le plus techno qu'il y avait à l'époque. Parce qu'il fait, oui. Il marque tous les... Du coup, il marque tout le temps. À l'époque, c'était le plus risqué que tu pouvais faire. Et du coup, moi, j'aime beaucoup, c'est parler avec le lunfardo, c'est l'argot argentin. C'est assez beau. Le tango, personnellement, ça me touche beaucoup. Ça, mais
ça cause de quoi? Bien pulenta.
Bien pulenta, c'est comme beaucoup de force. Bien pulenta, c'est comme...
Rajul, comme on dit en arabe. Il faut être ouais. Homme, non?
C'est pas tout à fait le fait de l'homme. Non, moi, je pense que c'est question d'interprétation. Mais bien pulenta, c'est avec beaucoup de force.
De polenta, bah
si,
quoi.
De polenta, comme beaucoup de polenta, ouais.
C'est idiot. Est-ce qu'il y a un lien entre, sérieusement, le tango et l'acrobate de roussir que vous êtes devenu?
Oui, moi je danse, en fait à la même époque je commence à faire du cirque, je commence à danser. Et du coup, quand j'ai commencé à faire la roussir, que c'est la grecque, je pratique... La première chose que j'ai eue, comme je n'avais pas de professeur à l'époque, c'était le fait de prendre cet agrès comme mon partenaire de danse. Et du coup, tous les vocabulaires que j'avais en danse, bah, du coup, ça a servi à prendre cet élément et pouvoir danser avec.
Avez-vous déjà traversé le miroir?
Juan?
Oui. C'est une question... Waouh.
Vaste.
C'est une question vaste, ouais.
Oh, ça, un petit bout de réponse, parce qu'on va peut-être pouvoir le développer en sol majeur.
Oui, oui, je pense que oui. Je pense que le miroir, il faut le traverser, non? Il faut traverser un miroir,
c'est
non?
C'est-à-dire...
Ça veut dire de casser une vitre, ouvrir quelque chose, de passer à autre chose, et peut-être même, non, de prendre ce risque. Ici, un miroir, du coup, continuer droit et le briser, oui.
J'ai pas tout compris, mais je crois comprendre simplement qu'il faut prendre des risques.
Voilà, oui.
Alors, on va développer cette histoire de miroir parce qu'évidemment, elle ne tombe pas là par hasard. Quelle est la première chose que vous avez appris à faire, enfant? Est-ce que vous avez d'abord parlé ou est-ce que vous avez d'abord marché?
Alors.
Allô, maman?
Allô, maman, ouais. Non, ouais, je pense que c'était bouger, ouais. Vous bougez beaucoup, ouais. Moi, j'étais quand même quelqu'un de rapport au corps, donc je pense que j'ai beaucoup bougé.
Est-ce que c'est la marche qui vous a amené jusqu'au cirque?
Et oui, je pense que c'était un besoin de mouvement, en tout cas. Donc oui, marcher, ça fait partie de mon chemin, ouais, ouais.
Le chemin, il commence bien avant nous. Le chemin, il existe avant qu'on monte dessus, en quelque sorte. Ou alors, on invente toujours son chemin. Mais bon, à partir du moment où on est sur cette terre, on ne l'a pas voulu. Et puis, on met un pied devant l'autre, on apprend à marcher. Et puis, la suite fait chemin. La marche, c'est tellement simple. Rien que marcher, ça vous révèle un homme. Donc, c'était bien partir du mouvement le plus simple, avec des récits d'épopées solitaires ou pas, d'ascension, où cette figure de l'homme qui marche convoque des pensées, un état de relation au présent, à la difficulté de l'ascension, aux douleurs du talon gauche, au poids du sac à dos, au fait que dans ce temps-là, qui est très répétitif, y a un état second qui vient, une sorte de fatigue dans la durée, et que cet état, moi, me plaît parce que je trouve qu'il laisse transparaître. Et on vient au plateau pour dire des choses, mais aussi pour en laisser transparaître d'autres.
Une voix qui marche en sol majeur, c'est celle de Mathieu Rimbolz, trampoliniste dont vous m'avez parlé, artiste de cirque qui dirige la compagnie Les Mains, les Pieds et la Tête. Et vous, Juan, qui avez été formé au Centre National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne, vous dites avoir été marqué par son apprentissage.
Et oui, oui, oui. Et après, bah, il vient de dire plein de choses magnifiques. Et oui, lui, il a fait un travail excellent avec son rapport à la graisse, sa recherche avec l'objet, de comment tout peut naître, de cette façon d'interroger son propre objet avec lequel on travaille tous les jours. Et du coup, oui, Mathieu Rimbolz, forcément, il est un de pionniers dans cet endroit-là. Il m'a vachement marqué parce que j'ai eu la possibilité de travailler aussi côte à côte dans la création de Somnium et Santa Madera, de pièces que j'ai créées avec la compagnie MPTA. Il reste une des artistes, quand même pour moi, qui pousse le cirque à travers son corps et à travers son agrès. Oui.
C'est un poète du corps. Quand il dit « rien que marcher, ça vous révèle un homme ». On a presque le mime Marceau en tête. C'est un démarrage, ça, ou pas, le mime aussi?
Bah, le mime, c'est toujours ce rapport au corps. Oui, je trouve super le mime. C'est un art magnifique. Ouais, ouais, ouais.
Alors en ce moment, Juan Ignacio Tula, vous êtes au Théâtre du Rond-Point à Paris, donc jusqu'au 3 mars. On peut se laisser porter, voire transpercer par les soli lontano et instante, présenté comme, je cite, « les deux faces d'une même pièce vertigineuse dédiée à la roussir ». Alors, pour la paresseuse que je suis, qui ne fait absolument jamais de sport et qui ne risque pas de rencontrer cette roue en question, vous nous avez dit qu'il y avait un lien entre cette roussir et puis le tango tout à l'heure. J'ai laissé un peu le suspense pour que vous nous expliquiez ce que c'est véritablement que la roussir.
C'est, on va dire, c'est un sarçon métal, à l'image de Leonardo da Vinci, l'homme de Vitruve, où on se met à l'intérieur, on prend avec nos extrémités la roue, et à l'intérieur, on fait de la danse, l'acrobatie, on va utiliser notre centre de gravité pour générer la force centrifuge, et on va se déplacer dans tous les sens. C'est un objet qui ça peut être utilisé comme un moyen de locomotion dans l'espace pour danser, pour faire l'acrobatie. Elle pèse plus ou moins autour des 15 kg, c'est assez en métal.
Voilà. Mais qu'est-ce qui vous fascine dans cet agrès ?
Alors moi, je propose un voyage d'Arviche.
On va le raconter, ouais. Ce voyage d'Arviche, mais d'emblée, qu'est-ce qui fait que vos yeux ont opté pour cet agrès ?
C'était le rapport qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, entre la danse et l'acrobatie. Pour moi, c'est un objet qui se trouve au juste milieu, au bon endroit entre la danse et l'acrobatie. On peut l'utiliser pour tourner, pour danser, plein de choses. Et du coup, j'ai eu un amour assez direct avec.
Une pièce créée par vous, Juan Ignacio Tula, et interprétée par Marika Marinoni. Quel est l'argumentaire de Lontano ? C'est son nom.
Lontano, c'est aller loin. C'est ça, c'est pousser ses limites. Il y a un grand travail autour de ça qu'on a fait avec Marika Marinoni, que j'ai invité à créer cette pièce du coup au sein de la compagnie Cette Vie, avec qui on a beaucoup travaillé ensemble.
Ça veut dire quoi, aller loin ?
Aller loin, c'est aller au-delà de ses possibilités pour chercher quelque chose de mieux, traverser
le miroir ?
Le miroir, possiblement, ouais. Voilà, ça pourrait être aussi aller loin. C'est que aussi à un moment donné, quand on est dans un geste, quand on est dans une marche, quand on est dans le geste physique qu'a le cirque, dans cette fatigue, on va aller chercher des choses qui sont très intérieures, quoi. On va aller loin aussi par rapport à nous, aller chercher à l'intérieur de nous et partager cette intériorité.
En termes d'endurance.
En termes d'endurance, oui, oui.
De souffrance.
De souffrance aussi, ouais, parce que là, pour dire sur Lontano, on travaille beaucoup sur cette bataille. C'est une bataille avec l'agrès.
Là, on est avec une ambiance particulière et surtout une voix qui est très connue, c'est celle de Caruso.
Enrico Caruso, oui.
C'est sa voix qu'on entend, pourquoi ?
Alors moi, je pense qu'il y avait quelque chose dans cette pièce qu'il fallait qu'il y ait une espèce de endroit d'opéra un peu, tu vois, un peu italien, un peu, parce que Marika est italienne. Du coup, je voulais voir ce moment où la danse, après autant de batailles, devient une forme libératrice. Où Marika, elle est sur complètement libération, il y a une sorte aussi d'extase entre la violence et la tendresse, quoi.
Un lyrisme latino.
Voilà, un lyrisme latino-italien, ouais, voilà.
Soyons précis. Mais il y a aussi dans votre Lontano une ambiance de match de foot à un moment donné.
Oui. Oui, c'est parce qu'en fait, avec la roue, c'est un objet qui, quand on donne un impulse, il revient avec plus de force. Et du coup, elle va constamment se battre avec cette roue qui, à chaque fois, elle va venir avec plus de force. Et qui, à fur et à mesure du spectacle, et cette roue l'oppresse. Et du coup, voilà, c'est autour de ça qu'on a travaillé. Et c'est un droit d'oppression et libération.
Donc, c'est une dialectique entre ce cerceau et les ressources qu'il demande au corps.
Oui.
Deuxième solo, donc au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 3 mars, Instante, donc créé et interprété par vous, Juan Ignacio Tula, et présenté dans le dossier de presse que j'ai bien lu, à votre santé, comme la matérialisation d'un voyage au centre de soi-même.
Oui.
Clap, c'est parti, pour juste une image. Sur scène, vous tournez sans interruption sur vous-même, au milieu du cerceau, et au fur et à mesure de la rotation, à un moment donné, vous ouvrez votre veste noire et... Tout en pivotant, vous jouez avec un tissu argenté qui devient, effet d'optique, une robe de derviche, une flamme, une longue jupe, une coiffe. Et vous voilà torse nu, courant maintenant après votre veste qui est... Tiens, accroché à un coin du cerceau. Sur le plan visuel, c'est marrant, ça m'a fait penser à du cinéma muet.
Oui, Ouais, j'ai travaillé beaucoup sur ça, ouais. Sur des gestes qui s'accélèrent et qui, du coup, on donne l'impression qu'il y a des accélérations, en fait. Et dans cette pièce-là, il y a beaucoup de jeux de ça. En fait, on parle un peu de la notion de la vitesse, parce que comment j'accroche cette couverture de survie argentée. Parfois, elle est à l'endroit extérieur de la roue, elle va en vitesse très vite, très très vite. Et moi, je propose une autre vitesse à l'intérieur. Du coup, à un moment qu'on a trois vitesses dans la même image, ça donne un effet comme si on a accéléré la vidéo. Du coup, je l'appelle cinéma accéléré, tous ces types de choses. Donc, effectivement, c'est une bonne lecture.
Puis, il y a quelque chose qui arrive comme une angoisse, un chaos, un désordre. Sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe, Juan, pour votre corps pendant cette performance de 25 minutes qui joue avec la fatigue, la douleur et la transe ?
Oui. Alors, pendant ces 25 minutes, c'est impossible d'expliquer, il faut vraiment le vivre, mais c'est un spectacle que j'aime plus le jouer par rapport à l'état que je vis à l'intérieur.
Jouer en fait, ou vivre ?
Jouer et vivre, ouais. Parce que ça passe dans le vécu. Donc une fois qu'on rentre au plateau, on commence à tourner, on voit que des lumières passer. À un moment donné, tout devient flou à l'extérieur. Il reste que les choses nettes, que sont les mains, la roue, les choses que tu peux visualiser près de ton corps. Et du coup, à ce moment-là, je commence à respirer. Je travaille sur la respiration. Et à un moment donné, je rentre dans un espèce d'univers que je ne pourrais pas expliquer. Je pense, je dirais plutôt la transe, oui.
Car effectivement, on a l'impression d'être rattaché, connecté à l'univers des derviches tourneurs, mais on a surtout la sensation que vous cherchez à être dans un état particulier.
Alors, l'état, je ne le cherche pas, il arrive seul. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, quand on tourne surtout en vitesse, en fait, les derviches trouvaient cet état. Mais moi, je le fais d'une autre façon parce que c'est encore, il y a la roussir, il y a le rapport à la douleur à surpasser, il y a le rapport aussi au fait que je tourne et que cette façon de tourner aussi, la respiration, ça t'amène vers cette transe. Mais tout ça apparaît, en fait, même si t'es pas dedans, en fait, au bout de 5 minutes, t'es dedans, en fait. C'est impossible de pas le vivre
à
fleur de peau, quoi.
J'allais dire, est-ce que cette chorégraphie est écrite ?
Oui. Il y a un chemin, il y a une écriture, il y a un chemin. Mais en fait, ce chemin, moi, je le change à chaque fois. Je le fais dans le vécu, en fait. Je ne peux pas compter 3 tours. Et là, 3 tours, j'échange la main de telle façon. Certaines choses, oui. Mais il y a des autres choses que je laisse aussi venir un peu à l'hasard ou à la sensation.
Oui. Mais c'est un pacte, j'allais dire, avec le diable. Vous présentez ce spectacle comme la matérialisation d'un voyage au centre de soi-même.
Oui, parce qu'il y a quelque chose de partage intérieur. Et là, je reviens sur le tango. Le tango, c'est quelque chose qui est né de l'abraço. Quand tu t'enlaces, quand tu te prends entre les bras, il naît de l'intérieur. Ça se passe entre toi, la personne, et après, ça s'extériorise. Et je pense que dans cet instant T, il y a un peu la même chose, en fait.
Mais Juan, on a parlé de fatigue, on a parlé de douleur, on a parlé de transe, mais enfin, ça a l'air d'être une épreuve quand même extrême. Pourquoi est-ce que vous infligez ça à votre corps?
Je me pose la même question à chaque date. Non, c'est une blague. Ça va. Non, alors c'était un choix, déjà. Après, il faut savoir que dans le cirque, nous, on a une tendance quand même un peu masochiste, de nous donner un peu la douleur, à nous brûler avec des choses, à nous cogner. Donc, c'est officiel. Non, mais moi, j'avais imaginé ça plutôt comme une performance aussi. Moi, à l'époque, il y avait des artistes comme pour dire Orlin qui se font des opérations et qui s'agissent de façon très violente avec leur propre corps, quoi, mettant leur corps en risque.
Moi, on n'est pas dans la mutilation, quand même.
Non, on n'est pas dans la mutilation. Mais quand même, je peux dire qu'à la fin du spectacle, je suis complètement retourné, mon ventre, il n'est vraiment pas bien jusqu'à le lendemain. C'est une pièce que je sais qu'à chaque fois que j'ai fini, je ne suis pas bien.
Mais vous ne faites pas la fête derrière.
Voilà, mais là, non.
On évoquait la compagnie Les Mains, Les Pieds et la Tête,
aussi,
de Malturin Bols. Que fait la tête, justement, pendant cette traversée?
Waouh, la tête, ça passe tellement de choses. Parfois, juste, t'es en observation. Et parfois, t'es vraiment tellement intéressé sur les choses que t'es en train de vivre, sur la fatigue, sur la respiration. Parfois, par ailleurs, j'oublie la notion de temps. Donc je suis en train de tourner. Je sais qu'il y a une écriture, il y a un chemin à faire, mais je suis parti en fait. Donc il faut que j'y revienne aussi, oui, parfois, ça. Dire ok, non, attends, il y a la suite quand même. Je ne veux pas rester là parce que tu peux rester juste à regarder ta main pendant des heures parce que tu es tellement parti dans ta tête que c'est le plus dur parfois, c'est aussi de revenir au plateau et dire oui, il faut quand même qu'on finisse cette performance.
Juan Ignacio Tula, votre tête d'artiste donc en partance, qui se confronte à la question de l'enfermement, on va en parler, est à l'affût de voix amies, bien sûr, vous lisez notamment. Et parmi ces voix amies, il y a celle-ci.
Lorsque tu passes sur ma tombe, c'est un texte qui part de la nécrophilie. C'est encore une fois une autofiction, c'est trois personnages. Et la pièce, il y a le personnage du dramaturge, de Monsieur Blanco. Dans cette pièce, il s'appelle Monsieur Blanco, hein, c'est plus Sergio, donc il a vieilli, qui décide de se faire euthanasier. Donc ça raconte les rencontres avec le médecin dans une clinique à Genève, en Suisse. C'est les différents entretiens avant d'aller à l'euthanasie, mais qui s'alternent avec des entretiens qu'il a dans un hôpital à Londres avec un jeune nécrophile à qui il décide de donner son corps. Donc c'est une pièce que j'ai écrite d'une manière assez particulière aussi, parce que j'ai voulu l'écrire à la main. Je me suis dit, je veux revenir à cette écriture manuelle où on dessine les mots et où on rentre aussi dans un autre temps d'écriture. Ensuite, après, je me suis dit, je vais le faire avec du sang. Je vais l'écrire avec du sang. Donc déjà, j'ai acheté 5 cahiers avec du papier que j'ai fait venir de Florence, de la famille qui livrait du papier à la famille Medici. Donc un très bon papier. J'achetais des plumes, je me suis dit, je vais les faire avec mon propre sang. Donc j'ai mis en place tous les protocoles, mais c'était très compliqué. Et au dernier moment, mon médecin traitant n'a pas été d'accord pour que je fasse l'expérience. Enfin, il n'a pas voulu donner son autorisation. Donc j'ai décidé d'acheter du sang en poudre d'un taureau espagnol.
Hola, qué tal? Comment ça va? On parle de souffrance, de masochisme, de nécrophilie, d'euthanasie. C'est l'heure de la détente sur RFI. Alors, cette autofiction sanguine intitulée « Lorsque tu passes sur ma tombe » et qu'on doit à Sergio Blanco, ouais, dont on entendait la voix, dramaturge franco-uruguayen que je découvre, pour un sol majeur, Juan Ignacio Tula, cette autofiction vous a inspiré?
Alors oui, je pense que le travail d'autofiction m'inspire. Et Sergio Blanco reste quand même un des référents qui écrit, qui cherche depuis très longtemps autour de ces pratiques-là.
Il est perché quand même. Hein,
il est un peu chépère, oui. mais en dehors de ça, c'est même Sergio Blanco qui parlait, j'ai entendu parler de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il disait un truc autour des réseaux sociaux, le fait de se filmer, de faire des stories, de se mettre en scène. Donc, je pense que la question de l'autofiction, elle est assez présente. Du coup, aujourd'hui, je vois que quand même, c'est quelque chose que moi aussi, je trouve qu'à chaque pièce que j'ai fait, j'ai dû mettre une partie de moi. Pour dire, à l'instant T, c'était quand même un hommage aussi à ma grand-mère, qui était très religieuse. Du coup, le côté de sacré, de côté qui peut avoir un lien vers la religion, du coup, c'était cet hommage-là. Et du coup, aujourd'hui, je travaille sur une nouvelle création qui s'appelle « Sortir par la porte, une tentative d'évasion », où je travaille autour de l'enfermement. Parce que moi, quand j'étais, on va dire, adolescent, je me suis retrouvé pendant un an et 8 mois dans un centre de désintoxication des drogues, à faire un parcours de désintoxication, avec des règles très strictes, etc. Donc aujourd'hui, je me suis aperçu qu'à l'intérieur de la grès, de ma roue, de mon propre grès, je tourne à l'intérieur et je m'enferme. Et du coup, voilà, j'ai eu cette envie de dire, ah bon, alors, si moi, inconsciemment, ça apparaît dans ma propre pratique physique, pourquoi pas le prendre comme source et point de départ pour créer une autofiction autour de ça, cette histoire.
Une autofiction libératrice peut-être aussi, parce que ça laisse sans doute des séquelles. Mais alors, quelle forme ça aurait, cette autofiction?
Alors, ça va être un endroit de croisement d'écriture, parce qu'il y a un texte d'Akimba, il y a aussi...
Dramaturge guinéen, avec qui vous avez Vous avez travaillé
ouais,
déjà?
Ouais, on a fait avec Akimba, avec Arthur Barlet-Gillette et Mara Vijajak, on a créé pourvu que la mastication ne soit pas longue.
Donc la forme, ouais. Là, de sortir par la porte?
Ouais, c'est une forme, ça va durer environ une heure. Il y aura tout un travail autour de la vidéo, parce que là, en fait, j'ai une roue qui fait 3 mètres de diamètre. Et il y a à travers une caméra qu'on met à l'intérieur, une autre caméra, un peu comme une caméra de surveillance, on va dire, qui est au plateau. Du coup, on amène aussi tout un travail d'écriture et des récits à travers la vidéo.
C'est une catharsis presque psychanalytique.
C'est vrai que quand même, il y a une part un peu de besoin de dire ça, parce que oui. Mais par contre, je pense qu'encore une fois, je pense qu'il faut que ça passe à l'universel.
Ben, on va ouvrir alors. On quitte la scène une seconde pour une petite minute de salle obscure.
12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Il arrive qu'on laisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang. Et dont on s'éloigne, volontairement. 12 ans. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Et pourquoi avoir peur d'eux, au fond? Ça pourrait être agréable. Comme dans les romans où tout finit en beauté, on finirait par s'aimer, on rirait avec bêtise. Il fermerait les yeux sur les erreurs. Ou il me reprocherait tout, ne me pardonnerait rien. Ça pleurerait, ça crierait, comme dans les feuilletons qui ne se posent pas de questions. Les secrets, les sanglots, les reproches. Et qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs. Qu'est-ce qui se passera?
F comme famille d'élection.
Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
Mais justement, c'est juste la fin du monde. La bande-annonce du film de Xavier Dolan, dont vous aimez apparemment la patte cinématographique, Juan Ignacio Tula.
Oui, j'aime beaucoup. J'ai découvert ces films il y a quelques années et je trouve que quand même, il y a un rapport à les couleurs, à l'image, à l'amitié, à l'accent aussi, à l'accent canadien que j'adore cet accent, ça. Mais bah, c'est pas que l'accent tue, mais il le met en valeur. En fait, j'ai l'impression que suivant les accents, même en France, j'ai l'impression que les gens qui arrivent du sud et arrivent à Paris, bah, et du coup, ils essaient de cacher leur accent et qui lui joue de ça, en fait. Et moi, je trouve ça très, très, très touchant. Et après, il y a aussi son rapport à l'amour. C'était toujours des histoires d'amour quand même bien complexes.
À la famille.
À la famille aussi, ouais, à la famille. Ouais.
Il arrive qu'on naisse chez des gens dont on ne comprend pas qu'ils nous soient proches ou reliés par le sang. C'est ce qui est dit hein, dans ce film. Vous êtes d'accord avec ça?
Tu peux le répéter une fois.
En fait, est-ce que vous êtes plus famille biologique ou plus famille d'élection? Est-ce que vous êtes proche de votre famille de sang?
Non, oui, je suis proche. Ouais, je reste, je garde un lien proche. Mais après, c'est vrai que la famille de sang est la famille qu'on choisit. Ça, c'est clair.
Donc, vous avez fait une grande famille aujourd'hui.
Bah, aujourd'hui, je suis une très grande famille, ouais.
Vous êtes papa plusieurs fois?
Non.
Non, je veux dire, faut pas exagérer quand même. Et encore, je suis gentille. Ouais. Je sais que le monde vous tend les bras, en fait, hein, et que vous êtes un voyageur. Et là où vous allez, vous aimez les villes. Lausanne, Palerme, Vilnius, évidemment, Buenos Aires.
Oui. Moi, je pense que le fait d'être né dans la ville à Buenos Aires, ça me ramène toujours à aimer ces endroits de ville. Plutôt que les petits villages, on va dire. Donc oui, forcément, je voyage beaucoup. Heureusement, ce métier, un des trucs les plus beaux, c'est cette possibilité de voir tellement de paysages, tellement peu de temps. Et du coup, vraiment, ces derniers temps, c'était assez incroyable parce que je me suis retrouvé à Séoul, à New York, à Montréal, à Vancouver, à Vilnius, à Kelowna. Bon, bref, partout. Et suivant, je tombe amoureux des endroits. Ouais. Et j'ai l'impression que je pourrais habiter partout. En fait, je pourrais habiter à Catane, je pourrais habiter à Lausanne, je pourrais habiter à Palerme, je pourrais habiter à New York, je me reviens un temps, pas toute l'année peut-être, mais un temps, je me reviens, voilà, chez un petit...
J'allais dire une femme dans chaque port, mais là, c'est une ville dans chaque port.
Ouais, une ville.
Et alors donc, prochaine ville pour vous, parce que vous êtes en tournée d'ailleurs.
La prochaine ville, c'est Paris.
Lontano et Instante, les 16 et 17 avril, c'est à Saint-Brieuc, donc en France, les 27 et 28 avril à Barcelone, en Espagne, ouais. Et du 16 au 20 mai, vous êtes à Cologne, en Allemagne. Et vous allez tomber amoureux à chaque fois?
Et l'Allemagne, ça dépend, je l'aime beaucoup, hein, mais le climat quand même, c'est vrai que les villes du sud, j'ai une petite tendance, mais Berlin, c'est une ville où je suis tombé amoureux aussi assez fort, ouais.
Musicien uruguayen ou musicienne américaine pour se quitter en sol majeur, c'est-à-dire Jorge Drexler avec Bolivia ou bien Sundance Archives?
Et quoi, c'est à moi de choisir?
Oui, c'est votre programme.
Ah, c'est très dur ça. Ah, parce que Drexler, c'est un de mes artistes préférés. Et l'autre morceau, c'est le morceau avec lequel je suis en loop depuis un mois. Donc,
forcément.
Moi, vu qu'on est parti sur quai de choses de l'Amérique latine, partons sur Jorge Drexler parce que je pense que ça mérite que les gens le connaissent.
Merci, Juan Ignacio Tula. Au générique de cet en sol majeur consacré à Juan Ignacio Tula, la bande son de notre invité, en trois acrobaties. Première acrobatie.
No me gusta vivir giles que después se me hace en contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se tuerce con la mala ni tampoco el batidor.
Deuxième acrobatie. Troisième acrobatie.
Mais qu'est-ce qu'ils feront quand je leur dirai? Quand je leur dirai que je m'en vais, que je ne reviendrai pas, de manière définitive, en souillant leurs souvenirs, qu'est-ce qui se passera? Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
Tout ça à retrouver en podcast sur votre appli Pure Radio. Caroline Filliette, Théo Raison, Yasmine Chouaki. La semaine prochaine, petite virée arménienne avec Thomas Tcherkézian. Dans un instant, votre journal suivi de La Marche du Monde.